Enfin, fais ce que tu peux. Allez, courage.
Et surtout, courage à tous ceux à qui Daniel Morin manquera cette semaine, et en particulier à ses deux plus grands fans, ses Morinzouz, comme il les appelle, Nicolas Demorand et Léa Salamé. Pas trop le seum de démarrer sans les homériques lancements de Daniel.
Non, ça va aller. Ouais.
Ah, j'aime bien. Bonjour les Morinzouz. Ça va rester, ça.
Ça, oui, ça va rester. Bonjour Mathilde.
Bonne journée.
Bonjour à tous.
France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 5 juillet. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la pression est de plus en plus forte pour rendre obligatoire la vaccination des soignants, alors que le ministre de la Santé craint une nouvelle vague dès la fin du mois. Nous irons aussi en Italie où la vaccination est obligatoire depuis 3 mois pour les personnels de santé. On voit tout ça, Agnès, après les autres titres.
Le télétravail va-t-il entraîner une délocalisation des postes de cadres ? Ambiance sur la croisette à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes. Retour sur le congrès du Rassemblement National hier à Perpignan. Et puis une journée de repos bien méritée pour les rescapés de la 9e étape du Tour de France.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Après des retards à l'allumage sur les vaccins, après des polémiques sur les suppressions de postes, Sanofi veut tourner la page et annonce que son vaccin arrivera à la fin de l'année. Mais est-ce trop tard ? Le président de Sanofi France, Olivier Bogilot, sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouve à 8h20, Léa, pour le grand entretien avec aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Il répondra à toutes vos questions. Le standard est d'ailleurs ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Une quatrième vague de contamination est possible dès la fin du mois de juillet. Déclaration hier soir du ministre de la Santé qui s'inquiète donc d'une augmentation récente du nombre de cas. 2549 détectés ces dernières 24 heures contre 1578 il y a 8 jours. Même si la pression continue de diminuer dans les hôpitaux avec moins de 8000 malades hospitalisés. Olivier Véran a assisté hier à un concert spécial du festival Solidays réservé au personnel soignant. Et il a insisté sur la nécessité de se faire vacciner.
Demander à un soignant de se vacciner, c'est pas le pointer du doigt. C'est pas dénigrer le travail qui a été fait. C'est pas dénier le sens de leur engagement. C'est pas vouloir brusquer qui que ce soit. Demander à des soignants de se vacciner, c'est leur demander d'aller au bout de leur engagement au service de leurs malades et de la santé des gens qu'ils ont choisi de protéger. À l'heure à laquelle on se parle, l'épidémie n'est pas terminée. Aujourd'hui, il y a 1 à 2 décès par jour en EHPAD. Pourquoi ? Parce que les personnes âgées en EHPAD sont vaccinées, parce que le virus circule beaucoup moins fort. Mais si le virus devait repartir fort, eh bien alors il pourrait contaminer des personnes qui ne seraient pas vaccinées, qui ensuite pourraient transmettre le virus à des personnes qui, parce qu'elles sont très très âgées, ont une immunité qui est beaucoup plus faible que la vôtre ou que la mienne une fois qu'on est vacciné. Donc c'est ce message-là qu'on passe, encore une fois, depuis mois après mois. C'est pas franco-français, hein. Vous avez ce débat en Italie, vous l'avez en Allemagne, vous l'avez en Espagne, vous l'avez aux États-Unis. C'est une obligation morale pour nous que d'assurer par tous les moyens la protection de l'ensemble des Français, qu'ils soient résidents en EHPAD, qu'ils soient malades à l'hôpital ou qu'ils portent la blouse blanche.
Des propos recueillis par Sandrine Etoa-Andegue. 96 médecins ont également signé hier une tribune dans le JDD pour demander l'obligation de vaccination pour les soignants. L'exécutif va d'ailleurs lancer dès aujourd'hui une série de consultations. Et comme le disait à l'instant Olivier Véran, le débat est européen. En Italie, 98% des personnels de santé ont reçu au moins une dose de vaccin. Et pour cause, depuis un décret du 1er avril, la vaccination est obligatoire pour eux, sous peine d'être suspendu ou privé de salaire. Olivier Tosseri est à Rome pour France Inter.
La réussite de la campagne de vaccination de masse est la priorité du président du Conseil Mario Draghi. Ce n'est pas normal que les personnels de santé ne soient pas vaccinés s'ils sont en contact avec des personnes malades ou fragiles, avait-il déclaré quelques jours après sa prise de fonction. Pour l'immunologue Antonella Viola, c'est une évidence.
Mais je n'ai jamais eu le moindre doute pour me faire vacciner. Ceux comme moi qui travaillent dans des hôpitaux ou sont en contact avec des patients doivent être absolument vaccinés, car par définition, un patient est une personne fragile. Sachant que je ne me ferai jamais soigner par quelqu'un qui refuse de se faire vacciner. Il faut aussi reprendre la formation des médecins en Italie pour les aider à mieux expliquer ce que sont les vaccins, à quelle catégorie de population les conseiller, et surtout pour qu'ils expliquent pourquoi c'est toujours mieux d'être vacciné que de subir le virus.
Aux explications, le gouvernement italien préfère l'obligation vaccinale. Un décret adopté au printemps dernier imposait donc aux infirmiers, aux médecins et aux pharmaciens en contact avec le public de se faire vacciner avec la possibilité d'être suspendu pour les réfractaires. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et à noter que 300 soignants italiens ont saisi la justice pour dénoncer cette obligation de vaccination. Le Covid n'a pas encore été vaincu, a également mis en garde Joe Biden hier à l'occasion de la fête nationale américaine. Et puis grosse colère du président vénézuélien qui met en cause le dispositif COVAX, assurant que son pays a payé des doses de vaccins qu'il n'a toujours pas reçues. La pandémie a bouleversé nos habitudes durablement, notamment en ce qui concerne le télétravail, très marginal jusqu'en mars 2020, et devenu ensuite la règle. Et plusieurs experts et syndicats s'interrogent sur l'avenir. Une pratique pourrait bien se développer, celle de la délocalisation de certains postes vers les pays où le coût du travail est moins élevé. Maxime Debs.
Jérôme Chemin, secrétaire général adjoint de la CFDT Cadre, voit remonter des témoignages de salariés inquiets pour qui le télétravail complet n'est et ne sera jamais une option.
On sait que c'est loin des yeux, loin du cœur des fois, donc on a un petit peu peur.
Et pour cause.
C'est très bien de pouvoir faire du télétravail, que la direction accepte que vous fassiez du télétravail sur votre poste, mais vous envoyez aussi un message fort aussi à votre direction, c'est que si vous êtes capable de le faire au fin fond de la Creuse, bah, votre poste peut être aussi fait dans un autre pays.
Et ce syndicaliste de prendre très au sérieux la récente étude de l'assureur Crédit Coface qui met en garde justement contre cette tentation que pourraient avoir les employeurs dans les mois qui viennent, celle de recruter des salariés dans les pays émergents pour exécuter les mêmes tâches en télétravail 1000 km plus loin. Pour Jérôme Chemin, on risque bien d'aller vers ce type d'externalisation.
Et d'ailleurs, pas forcément d'externalisation vers des pays à bas coût. Hein. On pourra très très bien imaginer que, entreprise parisienne, on aille recruter des personnes dans d'autres régions de la France en appliquant des grilles de salaire différentes avec des fois 15, 20, moins 30% de salaire par rapport au salaire parisien. Ça peut être quelque chose qui peut être mis très très rapidement en place.
Et de conclure, ce qui semblait de l'ordre de la science-fiction il y a encore quelques mois ne l'est plus. Il ne s'agit pas de jouer à se faire peur, mais d'être conscient et vigilant sur la question.
Et pour l'heure, le moral est au beau fixe à Avignon. Le festival annulé l'an dernier débute aujourd'hui. Nous serons en direct dans le journal de 8h. Quant au festival de Cannes, lui aussi annulé l'an dernier, il démarre demain. Avec le retour des stars sur la croisette, sont attendus Catherine Deneuve, Jodie Foster, Sean Penn et bien sûr le président du jury, le réalisateur américain Spike Lee. Yann Gallic s'est promené sur la croisette. Reportage.
Le regard du réalisateur américain Spike Lee, entouré de palmiers, surplombe le bord de mer. L'affiche en noir et blanc de cette 74e édition se déploie sur la façade du Palais des Festivals. Un symbole qui marque le retour du cinéma et des festivaliers sur la croisette. Patron d'un restaurant, Stéphane Ziemzak, attendait cet événement avec impatience.
On est très content que le festival revienne, évidemment, parce qu'on a passé des moments très 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 difficiles entre 7 mois de confinement, là, il y a encore quelques semaines en arrière. Donc c'est vrai que le festival, c'est un nouveau départ, on va dire, pour la ville de Cannes et pour tout ce qui est restaurant et commerce.
Pour les hôteliers, le festival représente près de 20% du chiffre d'affaires annuel. Pascal Boulanger dirige un hôtel 3 étoiles dans le centre-ville. Il a dû baisser ses tarifs pour essayer de remplir son carnet de réservation.
Je pense qu'on ne sera pas complet pendant la durée du festival. On sera au mieux, à la fin de la semaine, à 80% d'occupation. C'est pas la fréquentation mondiale habituelle. Souvent, ici, pendant le festival du film, on a des Japonais, on a des Coréens, on a des Argentins, on a des Uruguayens. Ils sont pas là cette année. C'est pas totalement satisfaisant. On n'est pas encore revenu à un festival normal.
Cette année, le festival de Cannes devrait accueillir environ 20 000 personnes. C'est deux fois moins que d'habitude.
Reportage de Yann Gallic. Et pour suivre les festivals de l'été, rendez-vous à 7h22 dans le Petit Journal de la Culture avec Isabelle Pasquier. Aujourd'hui, les rencontres d'art.
Il est 7h08. Marine Le Pen prépare le RN à Nice pour 2022.
Réélue à la tête du parti ce week-end lors du congrès qui s'est tenu à Perpignan, Marine Le Pen cédera sa place dès la mi-septembre à Jordan Bardella pour se consacrer à la campagne pour la présidentielle, car l'échec du parti au régional il y a une semaine n'a pas entamé sa détermination. Élodie Forêt a suivi le congrès du RN pour France Inter.
Marine Le Pen a déjà tourné la page des régionales. Certes, la patronne du RN promet de réfléchir à l'abstention, reconnaissant une défaillance du parti à mobiliser ses électeurs, mais la remise en cause ne va pas plus loin. Il faut décorréler les élections, assure Marine Le Pen qui, ce week-end, a mis le RN en orbite pour 2022. Légère réorganisation du parti avec Jordan Bardella prêt à assurer l'intérim. Une équipe de campagne qui se concrétise avec l'ancien préfet Christophe Bay au travail et un calendrier arrêté lors de la rentrée le 11 et 12 septembre. Mise en retrait de Marine Le Pen qui commencera à égrener ses 22 mesures phares. La patronne du RN toujours persuadée que le second tour se jouera contre Emmanuel Macron. La droite, ils vont vivre un moment saignant, ironise-t-elle. Quant à Éric Zemmour, la patronne du RN joue la provocation. Pour moi, c'est de la politique fiction, égratignant ceux du du RN qui serait tenté par l'aventure. Tous ceux qu'on vire iront chez lui. Je tiens à le prévenir que la qualité et l'équilibre psychologique ne sont pas au rendez-vous.
Et à droite, le bureau politique Les Républicains se réunit demain pour trancher la question d'une primaire ouverte et de son éventuel calendrier. Quant aux écologistes, la primaire aura lieu en septembre, déjà 4 candidats. Direction la Turquie à présent, où l'un des symboles de la coopération franco-turque voit son avenir menacé. L'université Galatasaray, un établissement renommé et francophone, pourrait bientôt se retrouver privé d'enseignants venus de France, car les autorités refusent de délivrer ou de renouveler les permis de travail à ceux qui ne maîtrisent pas la langue turque. Reportage à Istanbul, Dan Andloer.
C'est une sorte d'ultimatum pour la trentaine d'enseignants français de l'université Galatasaray, une université publique turque, francophone, née d'un accord bilatéral. La Turquie réclame désormais qu'ils justifient, pour continuer à travailler, donc à vivre dans le pays, d'un niveau avancé de turc dit B2, alors qu'ils ont tous été embauchés pour faire cours en français. Élodie, une enseignante.
Il n'y a aucune logique pédagogique et académique derrière, effectivement. C'est juste le côté de reprendre en main l'université, de la mettre au pas sous différentes formes et imposer le niveau B2. C'est un niveau suffisamment élevé pour que ça rebute plus d'une personne et que ça empêche le recrutement de nouvelles personnes, en fait.
Pourquoi la Turquie s'en prend-elle à ce qui fait la spécificité de cet établissement? Pour Selim, un enseignant turc, la réponse est politique.
Quand la diplomatie devient de plus en plus serrée entre la Turquie et la France, ou bien la trajectoire de la Turquie vers l'Union européenne a interrompu. La présence des professeurs français sont devenus de plus en plus faibles au sein du corps universitaire.
À ce jour, tous les efforts diplomatiques initiés par la France ont échoué. Une quinzaine d'enseignants français semblent condamnés à partir, faute d'un niveau suffisant de turc. Anne-Laure Istanbul, RFI pour France Inter.
Il est 7h11, enfin une journée de repos bien méritée, Agnès, pour les coureurs du Tour de France.
Après une étape dantesque hier dans les Alpes, la pluie et le froid ont fracassé les cyclistes. 7 sont arrivés hors délai à Tignes, 3 ont abandonné. Nicolas Perronnet était à l'arrivée à 2100 mètres d'altitude.
Il est arrivé tremblant, soutenu par son équipe, à l'image de nombreux coureurs. La voix d'Aurélien Paré-Peintre trahit à elle seule le calvaire traversé par le peloton.
Dantesque, encore un départ super rapide. Tout le monde est très fatigué. Content d'arriver à Tignes.
De la pluie encore, du début à la fin, mais ce n'était presque pas le pire pour Franck Bonamour qui se souviendra longtemps du Cormet de Roseland.
J'ai vraiment pas été loin de me faire avoir par le froid en bas de la descente, j'étais vraiment tétanisé, je pense tous les coureurs.
7 petits degrés au sommet pour un mois de juillet.
C'est rare qu'on ait aussi froid sur le tour, je pense.
Mais enfin, ça y est, Julien Bernard espère pouvoir récupérer un peu.
Ouais, on verra, on a une journée de repos et puis après on a une journée un peu moins dure, donc on espère surtout avoir le soleil, quoi.
Recharger des batteries bien à plat, car il n'y a pas que la météo qui a pesé sur les organismes, rappelle Didier Janel, le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën.
Depuis le début, je crois qu'il n'y a pas de journée facile, voilà où on peut se poser. Donc déjà digérer les 9 étapes qui ont été proposées aux coureurs avant de repartir sur la deuxième phase du Tour de France, qui ne sera pas facile non plus.
Avec un peloton amaigri, l'étape d'hier a été fatale à 10 coureurs, 3 ont abandonné en cours de route, 7 sont arrivés hors délai, dont les Français démarquent au carré de la place.
Et c'est l'Australien Ben O'Connor qui a remporté l'étape d'hier et qui remonte à la deuxième place du classement à plus de 2 minutes tout de même du maillot jaune Pogacar qui, lui, creuse l'écart.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom. Aujourd'hui, sur la détresse des familles d'autistes adultes face au manque de structures adaptées.